Bonjour Eva Sas.
Bonjour.
Les derniers sondages font apparaître une baisse des intentions de vote en faveur de la majorité présidentielle aux élections législatives et à l'inverse, une hausse pour les candidats de la nouvelle Union populaire de la gauche. Est-ce que vous prenez véritablement au sérieux l'hypothèse que Jean-Luc Mélenchon puisse devenir Premier ministre à l'issue de ces élections ?
Oui, c'est possible, mais surtout ce qui s'est levé vraiment le 7 mai avec la création de la nouvelle Union populaire écologique et sociale, c'est le retour de la gauche et des écologistes dans le débat public, le retour en force, je crois, parce que le fait qu'on ait réussi cette union, on nous met dans une position vraiment, pour le coup, d'affirmer une politique volontariste à l'Assemblée, d'arriver en force avec plusieurs groupes et un intergroupe, donc organisé pour gouverner.
Même si la NUP, il faut le préciser, alors NUP ou NUPES, vous nous avez dit qu'on peut dire les deux, progresse dans les sondages, il faut quand même rappeler que les projections en nombre de sièges à l'Assemblée nationale donnent toujours une assez large avance à la majorité présidentielle. Vous seriez donc réellement et profondément déçu au soir du 19 juin si vous constatiez que cette union de la gauche finalement n'obtient pas la majorité ?
Ce qui est sûr, c'est que ça sera toujours déjà beaucoup mieux que ce qu'on a eu dans cette mandature et que nous.
Là-dessus, il n'y a aucun doute.
Il n'y a aucun doute. Il y a vraiment un espoir qui s'est levé. Il faut transformer cet espoir en victoire, comme on dit. Et je crois vraiment que pour le coup, Emmanuel Macron est fragilisé. La majorité qu'on lui promet serait très relative et nous pourrons combattre contre la retraite à 65 ans, par exemple, ou contre les reculs sociaux. Nous sommes alignés et nous avons un programme de gouvernement, je pense que vous l'avez vu, qui comporte 650 mesures. Donc nous avons mis l'armature en place pour gouverner. C'est notre objectif. Et toujours, nous avons la volonté à la fois de construire cette majorité et de pouvoir nous opposer si, par malheur, nous n'avions pas cette majorité à l'Assemblée.
Oui, alors vous dites que la majorité d'Emmanuel Macron serait très relative. Elle serait absolue tout de même dans les projections, mais elle serait nettement moins confortable et moins forte que lors de son précédent mandat. Vous faites donc comme si vous étiez sur le point de prendre les commandes du gouvernement, puisque vous avez présenté hier votre plan en faveur du pouvoir d'achat. Il y avait dans cette démarche une volonté de prendre le gouvernement de vitesse sur ce sujet ?
Non, parce que je pense que ce qu'on voit bien, c'est que le gouvernement, au contraire, joue la montre et repousse son projet de loi de finances rectificative après législative, peut-être parce qu'il ne veut pas montrer que les mesures qu'il a prises en faveur du pouvoir d'achat, en fait, il y aura un rattrapage après législative. Donc non, ce que nous voulions montrer, c'est que nous allons combattre à l'Assemblée pour une véritable justice sociale. On l'a appelé le plan Robin des Bois, on l'a appelé en cours de conférence de presse d'ailleurs, le plan Robin des Bois, parce que on est confronté à deux problèmes. Un, le problème de l'inflation, on a une augmentation des prix qui est galopante sur tous les produits de première nécessité et sur l'énergie. Et puis parallèlement, on a un problème de partage de la valeur dans ce pays. Les dividendes, la rémunération des actionnaires et la rémunération des dirigeants augmentent de façon exponentielle. Donc nous, ce que nous voulons faire, c'est mieux partager la valeur, augmenter les salaires, augmenter les revenus, ça veut dire augmentation du SMIC, conférence sociale pour augmenter l'ensemble des salaires, augmentation des pensions, dégel du point d'indice, c'est l'ensemble de ces mesures qui permettra de mieux répartir les richesses dans notre pays.
Alors parmi les mesures annoncées, au fond elles avaient déjà été évoquées d'ailleurs, le blocage des prix de première nécessité, ça concernerait un certain nombre de produits, vous les avez tous précisément inventoriés ?
Non, on ne les a pas encore précisément inventoriés parce que justement nous voulons en faire une démarche aussi citoyenne et faire comme ce qui s'est passé en Outre-mer, c'est-à-dire mettre autour de la table à la fois les parties prenantes et les citoyens pour décider quel est le panier de ces produits de première nécessité et étendre effectivement la disposition légale qui existe à ces produits de façon à ce qu'il y ait un blocage des prix sur ces produits-là.
Le salaire minimum à 1500 euros net, l'augmentation du point d'indice des fonctionnaires de 10%, également l'encadrement des loyers étendu à tout le territoire. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que ce type de mesure, qu'on a envisagé de manière beaucoup plus limitée déjà parfois, risquerait de provoquer un effondrement des prix de l'immobilier, ce qui ne serait pas forcément une mauvaise chose, évidemment, dans certaines villes ou certaines régions, mais qui pourrait être catastrophique pour un certain nombre d'acquéreurs. De ceux qui ont déjà acheté leurs biens.
Ceux qui sont propriétaires oui. aujourd'hui.
Récemment, par exemple.
Oui. L'important, c'est d'enrayer cette inflation sur les prix de l'immobilier qui devient délirante. Mmh. Aujourd'hui, on ne peut plus se loger. Surtout dans les centres-villes, c'est vrai, mais même partout en France, la part des revenus qui est consacrée au loyer atteint 30-40% des revenus des gens. Mmh. Donc, soit on ne fait rien, c'est un peu ce que proposent toutes les autres formations politiques. Soit on met des mesures en place, comme l'encadrement des loyers, qui vont permettre à la fois, évidemment, de freiner la hausse des loyers, mais c'est vrai aussi de freiner la hausse à l'acquisition. Et je pense que les deux sont des propositions positives.
Toutes ces mesures donc seraient financées par ce que vous avez appelé une meilleure répartition des richesses. Un plan Robin des Bois, vous l'avez dit, c'est l'expression qui a surgi... au cours de la conférence de presse hier, Robin des Bois, donc on prend aux riches pour donner aux pauvres. Vous avez fait les comptes ? Vous savez combien vous allez prendre aux riches ?
Ça dépend sur quoi, mais...
Sur l'ensemble ? Beaucoup d'argent, sans doute, non ?
C'est un plan qui, globalement, est de l'ordre de 250 milliards, mais l'important, c'est que c'est de l'implant à l'investissement et un plan pour les revenus et le pouvoir d'achat. Donc ça, c'est l'objectif. Moi, quand je vois que les revenus des actionnaires du CAC 40 ont augmenté de 70% en 10 ans, que le revenu des dirigeants du CAC 40 ont augmenté de 60%, je pense qu'une meilleure répartition est possible et c'est ça qu'on souhaite. C'est ce qu'on souhaite avant tout, c'est qu'effectivement, il y ait un rééquilibrage dans toute la mandature précédente, avec la flat tax, avec la baisse des impôts sur revenus de capital, avec la suppression de l'ISF, on a encouragé l'augmentation des profits et des rémunérations des actionnaires. Aujourd'hui, je pense qu'il faut rééquilibrer et c'est pour ça que nous proposons toute une série de mesures. Et je me permets de souligner qu'il y a toute une série de mesures qui, en fait, ne coûtent rien. Quand on fait une conférence sociale sur les salaires pour augmenter les grilles salariales, eh bien, c'est bien aux entreprises de payer, ce n'est pas aux contribuables.
Un petit mot, Eva Sas, de ce que l'on appelle désormais l'affaire Abad. La justice a fait savoir hier qu'elle n'ouvrait pas d'enquête contre le ministre des Solidarités, faute d'éléments permettant d'identifier la victime des faits dénoncés. Dans ces conditions, est-ce qu'on peut raisonnablement continuer de réclamer que Damien Abad soit écarté du gouvernement ?
Absolument. Je pense que c'est vraiment
sur quel fondement ?
C'est une erreur politique grave de laisser au gouvernement et d'ailleurs d'avoir nommé quelqu'un qui fait l'objet d'accusations de viol.
Alors de l'avoir nommé, le président et la première ministre disent que, enfin, le président s'est pas exprimé d'ailleurs explicitement là-dessus, mais enfin la première ministre dit on ne savait pas.
Oui, enfin, les gens qui n'ouvrent pas leur boîte mail pour découvrir qu'il y a eu des signalements, je trouve que l'erreur, enfin, ou l'excuse est un peu grossière. Mais je pense que surtout là, en la matière, on sait maintenant qu'il y a des accusations de viol. Quel est le message politique envoyé à la société quand on maintient en poste un ministre qui est accusé de viol ? Ça fait trop souvent...
Mais à contrario, quel est le message qu'on envoie si on l'écarte sur des accusations qui, pour l'instant, ne font pas l'objet de plaintes, ou en tout cas, pour certaines, des plaintes qui ont été classées sans suite ?
Le message qu'on envoie, c'est « nous sommes attentifs à la question de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles ». On ne peut pas dire « on va en faire la grande cause du quinquennat et maintenir en poste quelqu'un qui fait l'objet d'accusations ». Donc, au moins le temps de l'enquête, il est nécessaire de d'émettre Monsieur Abad. C'est la moindre des choses pour la parole des femmes.
Merci Eva Sas, bonne journée.
Merci.